Chapitre 3 à 6. Chapitre 3. Si vous vous en souvenez, le chapitre 2 que nous avons lu l'autre jour nous a donné l'histoire générale de la période dont ce livre s'occupe, communiquée dans un rêve dont Nebuchadnezzar reçoit l'interprétation par le prophète Daniel. C'est l'histoire du temps des gentils. Les quatre monarchies nous y sont présentées, puis leur dispersion finale par le jugement que la petite pierre, le royaume du Christ, le Christ lui-même, exécutera contre toute la puissance des nations. Nous l'avons vu, c'est après avoir détruit la statue que la petite pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Puis nous avons dit que le chapitre suivant, jusqu'à la fin du chapitre 6, nous présente le caractère et la conduite de ces empires, les grands principes qui les gouvernent, et qu'au lieu d'être soumis à Dieu, ils sont en rébellion contre lui, persécutent son peuple et s'élèvent contre lui, ce qui attire sur eux le jugement de Dieu. Dans ce chapitre 3, nous voyons le premier péché, l'idolâtrie, qui caractérise la puissance des gentils ou la puissance qui règne de leur temps. Au chapitre 4, ces empires, au lieu d'être soumis à Dieu, deviennent des bêtes, agissent comme elles, comme des bêtes redoutables, cessent d'être soumises, tandis que les hommes reconnaissent leur assujettissement à Dieu, et perdent l'intelligence. Dans le chapitre 5, l'impiété est manifestée, et au chapitre 6, le chef de l'empire s'élève pour se faire Dieu lui-même. Dès lors vient le détail des circonstances de ces empires et leurs relations spéciales avec le peuple de Dieu. Les principes sont donnés dans toute la première partie et les détails de l'histoire dans la seconde, le livre se divisant exactement en deux parties de 6 chapitres chacune. Celui que nous lisons ce soir nous donne les grands principes de la conduite de la puissance qui domine pendant le temps des gentils. Dans ce chapitre 3, l'idolâtrie est la première chose que la puissance civile établisse dans le but de fonder l'unité religieuse en éloignant tout le peuple du vrai Dieu et en lui substituant autre chose. Tel est le grand principe qui nous est présenté comme caractérisant l'empire des gentils. Il donne occasion à la fidélité du peuple de Dieu de se manifester. Nebuchadnezzar veut que tout le peuple, même que tous les peuples, car il en avait plusieurs sous sa domination, qui étaient réunis dans son empire, adorent cette statue. C'est l'idolâtrie. C'est ainsi que la puissance de Satan se manifeste. Il pousse la puissance civile à produire l'unité, car il n'y a pas de motif plus puissant que la religion pour les masses. Je ne parle pas ici de la vérité qui rend à Dieu sa suprématie sur la conscience en liant cette dernière à lui. Satan pousse les puissances civiles à établir l'unité afin que tout soit bien uni et réglé sous sa domination. C'est ce que fait Nebuchadnezzar. Il dresse cette statue dans la province de Babylone et veut que tous les gouverneurs se réunissent pour reconnaître ses dieux. Effectivement, c'est un moyen extrêmement puissant pour exercer une grande influence sur les peuples, les tenir soumis et les unir les uns aux autres, ainsi qu'à la puissance civile qui s'en fait le centre, ou du moins qui soutient cette religion et s'identifie à elle. Dès lors, si c'est la puissance civile qui fait cela, il faut absolument qu'il y ait persécution, plus ou moins violente, il est vrai, mais de fait, persécution. Il faut donc que tout soit établi par la puissance civile. C'est ce que fait Nebuchadnezzar. Il dit que celui qui ne le fera pas soit jeté à l'heure même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Telle est la conséquence pour ceux qui manquent à cette unité religieuse idolâtre établie pour tous les peuples de la terre. Une autre conséquence manifeste, et l'une des marques de toute cette puissance des gentils, c'est l'impiété, qui non seulement ne veut pas respecter la conscience, mais de plus ne tient pas compte du droit de Dieu. Et c'est là son côté important. La conscience est importante, sans doute, mais les droits de Dieu le sont encore davantage. Voici ce que dit Nebuchadnezzar, verset 15. « Qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» C'est l'impiété, le principe de blasphème qui a été celui de la bête de tout temps et dans toutes circonstances, l'idée de la puissance qu'elle possède et qu'elle tient. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Habacuc 1, verset 11. Souvenons-nous que le Dieu qu'il a donné est celui qui la domine. L'impiété, en oubliant la source de la puissance, veut s'arroger tous les droits en dépit de Dieu lui-même. Elle se lie immédiatement à l'idolâtrie, à l'unité en matière de religion, car elle tombe dans les mains de l'ennemi en s'éloignant de Dieu. Puis, quand la puissance civile veut absolument établir cette unité, elle met de côté non seulement les droits de la conscience, mais les droits de Dieu lui-même. Cette remarque s'applique aussi d'une manière plus spéciale à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement que l'homme ait droit à la parole de Dieu et que le prochain ne puisse s'y opposer, mais un droit plus sacré encore est contesté si on la lui ôte, c'est que Dieu a le droit d'adresser ce qu'il veut aux âmes des hommes et que leur ayant adressé sa parole, ceux qui les en privent agissent contrairement à ses droits et méconnaissent l'autorité de Dieu qui a voulu la leur envoyer. J'ai des serviteurs, des personnes sous ma dépendance, et je leur envoie mes ordres. Évidemment, si quelqu'un empêche les serviteurs de recevoir ces ordres, il empiète non seulement sur leurs droits, mais sur les miens. Et c'est là le grand point. Dieu tirera vengeance de tout cela sans doute. C'est une chose terrible de violer la conscience d'autrui pour satisfaire sa propre méchanceté. Mais Nebuchadnezzar mettait complètement de côté les droits du vrai Dieu. C'est là le principe blasphématoire qui s'attache aux gentils dès le commencement, le premier acte de cette tête d'or, fondement même de la puissance des gentils, qui nous est présenté dans ce chapitre 3. D'autre part, un fait très touchant quant à Shadrach, Meshach et Abednego est qu'ils ne s'inquiètent de rien. « Il n'est pas nécessaire, disent-ils au roi Nebuchadnezzar, que nous te répondions sur ce sujet. » Versets 17 et 18. La conséquence de cette confiance ne sera-t-elle pas que ses fidèles échapperont à la persécution? Aucunement. Ils n'y échappent pas. Dieu permet qu'ils soient mis à l'épreuve. Il ne se manifeste pas avant l'épreuve, mais il permet à Nebuchadnezzar d'accomplir tout ce qu'il veut. Ils sont jetés dans la fournaise de feu ardent, comme plus tard Daniel lui-même dans la fosse aux lions. Ils n'offrent aucune résistance à l'ardeur de la persécution. Ils ne veulent pas faire la volonté de Nebuchadnezzar en violant leur conscience, mais ils se soumettent complètement à ses ordres quant au corps et ne lui cèdent rien quant à l'âme. Or, en voici la conséquence. Ils sont déliés par le feu, et rien n'est brûlé que les liens dont le monde avait réussi à les charger. Bien plus, ils trouvent dans le feu le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre conséquence pour eux. Et c'est en outre un témoignage immédiat de l'intérêt que Dieu prend à ses pauvres serviteurs. Or, la conséquence de leur délivrance est de forcer la puissance civile à reconnaître que leur Dieu est un Dieu qui délivre son peuple et qui daigne allier son nom au leur. C'est ce que dit Nebuchadnezzar. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, etc. Versets 28 et 29. Tel est le principe du fidèle. Il a livré son corps afin de ne servir aucun autre Dieu que son Dieu. De plus, ces fidèles sortent, témoins de la puissance de Dieu, leur Dieu, à la vue de tout le monde. Satrapes, gouverneurs, tous les dignitaires disent « Il est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego ». Il en arrivera de même aux Juifs fidèles. Ils seront dans la fournaise de feu à la fin, mais en même temps, Dieu sera manifesté comme leur Dieu. Nous avons une espérance plus élevée que celle-là, même si nous devions être mis à mort. Notre espérance est l'espérance de la gloire de celui qui nous a sauvés, dont nous jouirons avec lui, là où il est. Mais quant à ceux qui composent le résidu juif, liés par la puissance de la mort, ils seront délivrés par la puissance de Dieu, et le vrai Dieu sera reconnu être leur Dieu. Nous avons indiqué le premier caractère de ces bêtes, et nous allons poursuivre dans les chapitres suivants le tableau qui nous est fait des autres bêtes.